Chers amis de Radio Courtoisie, je suis heureuse de vous retrouver par ce temps d'été extraordinaire. Je vous avouerai que j'ai eu grand peine à quitter mes roses parce que depuis hier, c'est l'explosion. Elles sont absolument magnifiques, mais je pense que mon absence ne va pas les empêcher de fleurir. Donc, je suis modérément frappée, mais tout de même, voilà, c'est une période absolument délicieuse. Et néanmoins, dans les studios de Radio Courtoisie, eh bien, il fait bon, nous sommes fort bien accueillis. Et donc, je reçois aujourd'hui Nicolas Mirkovic.
Bonjour.
Bonjour Nicolas, c'est gentil de venir jusqu'à nous parce que, eh bien, vous êtes partout sur les réseaux, sur etc. Demain à Perpignan pour une journée consacrée à la liberté.
Trois journées.
Ouais. À la liberté d'expression, c'est ça ?
Exactement.
Dans la bonne ville de Perpignan. ce livre, donc pour le livre Déclin et renouveau. Comment les Français se relèveront ? Je vous ai déjà invité, mais ce n'était pas pour parler du livre, c'était dans un cadre plus général. Et alors, très gentiment, vous m'avez apporté une BD. Alors moi, je suis très contente, j'aime beaucoup les BD, qui s'appelle « Bienvenue au Kosovo ». Et je le montre, avec des dessins magnifiques. Qui n'est pas tout récent, puisque c'était la période, donc, vous avez écrit en 2013.
En 2019, oui, c'était pas du tout, je comptais pas en faire la promo, c'était vraiment pour vous l'apporter aujourd'hui, mais il se trouve que voilà, ouais, c'est en effet une BD sur l'histoire du pogrom anti-serm de 2004, donc c'est l'histoire je vais pas tout raconter, mais d'une famille qui se retrouve lors de cette occasion, et c'est l'occasion de rappeler ce qui s'est passé au CERM, sous les yeux... voilés et de l'Union européenne et de l'OTAN. Ils ont laissé un pogrom se dérouler sur la terre ancestrale des Serbes. Et donc, voilà, je raconte cela dans cette BD. Mais c'était, voilà.
Je vais me permettre du coup d'être un petit peu indiscrète, mais quel est votre rapport avec le Kosovo ? Vous êtes serbe ?
Oui, par mon père, oui. Serbe par mon père. Moi, je suis né yougoslave par mon père et normand par ma mère.
Oui.
Donc voilà. Donc je suis entre les deux et je connais donc l'histoire des deux. Je suis intéressé aux histoires des deux.
Mais la famille de votre père n'était pas au Kosovo, elle était en Serbie.
Mais le Kosovo est vraiment un symbole particulièrement fort pour les Serbes parce que c'est autour de l'État qui s'est créé au Kosovo que la nation serbe s'est construite et tous les hauts lieux de la religion, de la foi, du pouvoir. Serbes se retrouvent au Kosovo et les Serbes ont résisté pendant 5 siècles d'occupation ottomane. Vous savez, on en parlera certainement tout à l'heure, mais génération après génération, les Serbes ont résisté en restant fidèles à leur foi orthodoxe chrétienne, en restant fidèles à leur culture, en se soulevant régulièrement aussi. Et au bout de 5 siècles, ils ont récupéré ce territoire contre les Ottomans. Ils ont chassé les Ottomans et c'est l'OTAN qu'il a donné à une minorité albanaise que les Ottomans avaient fait venir progressivement pendant leur occupation.
C'est-à-dire qu'on avait bien dit qu'on ne ferait jamais un État qui reposerait sur la religion, par exemple.
Non, on voulait pas d'État ethnique, pas d'État religieux.
Non, pas du tout,
balcons,
on ferait jamais ça.
C'est exactement ce qu'ils ont fait, quoi.
C'est absolument incroyable. Alors, nous allons bien sûr parler de ce livre que j'ai lu très attentivement. Je voudrais juste faire part de ma joie, et en étant désolée de mentionner un autre auteur, mais en venant ici, et je craignais beaucoup les 33 degrés extérieurs, donc j'étais un petit peu anxieuse sur ce qui allait se passer, et tout d'un coup j'entends, alors sur une radio qui n'est pas la nôtre, mais qui est également très, très bonne, et une des affreuses radios Bolloré dont la gauche, j'ai entendu donc un dialogue entre il y avait donc Christine Kelly, il y avait Denis, attendez parce que là du coup au moment de citer le truc, donc le livre s'appelle Le Cendre et le Feu, enquête intime au cœur de la droite française, et je ne connais que lui, en plus. Tout d'un coup, j'ai parlé, et puis du coup, je l'ai oublié. Tugdual Denis. Voilà, Tugdual Denis. C'est un joli prénom, mais c'est vrai que ce n'est pas un prénom extrêmement courant. Et donc, je les ai entendus, et Tugdual Denis est donc un journaliste qui effectivement de ce milieu-là, cette droite catho-versaillaise, droite traditionnelle, pêlée de Chartres, dont vient aussi Gabriel Cluzel, qui a été patronne d'émission ici et qui maintenant est pratiquement tous les jours sur CNews. Et qui a écrit d'ailleurs « Attention à la France bien élevée » il y a quelque temps. Et donc, ce milieu-là, moi, je n'en faisais pas partie. Mes parents étaient deux intellectuels, donc voilà, j'étais pas dans ce milieu-là. Mais j'ai découvert à 19 ans, en faisant mon premier Pélé de Chartres avec eux, et je ne les ai jamais quittés, parce que il y a chez eux, donc le mot d'intime est excellent, parce que, comme l'a raconté Gabriel Cluzel aussi, cette droite-là, spécifiquement, elle était tellement moquée, tellement écartée, tellement, comment dire, même diffamée parfois, hein, c'était terrible. Et du coup, tout est resté dans l'intime de ces familles, en fait. Mais l'intime de ces familles, d'abord, sont des familles nombreuses pour la plupart. Ça a commencé à éclore, et depuis longtemps, puisque moi, le premier pays de charge, je ne vous dirais pas quand c'était, mais enfin, bon, c'était il y a longtemps. Donc, l'affaire n'est pas nouvelle. Et donc là, on en est aux petits-enfants, peut-être pour certains arrière-petits-enfants, et ça fait beaucoup de monde, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est que eux qu'il y avait au pèlerinage de Chartres, où il y a eu 20 000 pèlerins ce week-end de Pentecôte, mais en tout cas, une bonne partie, et ils ont diffusé un esprit que moi-même, qui ne venais pas de ce genre de famille, est complètement intériorisé aussi, c'est-à-dire c'est une représentation de la France, et c'est un petit peu le sens du titre que j'ai donné à cette émission, qui est un peu violent peut-être pour certains. Français, Marianne n'est pas ta mère. Au départ, ça voulait dire l'État ne doit pas s'occuper de tout pour toi, c'est-à-dire elle ne doit pas te lasser tes chaussures, te dire ce qu'il faut dans ton assiette et quel livre tu dois lire. Et puis, en les entendant ce matin, je me suis dit, il y a aussi une autre compréhension possible, c'est que en 1793, quand on déclare d'effacer du roi tout ce qui était, et notamment son image, bien entendu, eh bien c'est là qu'on a inventé Marianne, donc la République, avec son bonnet phrygien, la Révolution, en quelque sorte. Donc, il y a tout de même, malgré tout, dans cette France dont parle Tugdual Denis, il y a cette indignation contre ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas que c'est aussi la France, bien entendu. On ne peut pas, puisque... Mais il y a une indignation qui n'est pas morte. Et cette indignation, elle va aussi... elle existe aussi parce que c'était pas seulement la royauté, c'était la religion catholique qui était visée et qui a été effectivement détruite le plus possible, d'abord en 1792, puis ensuite en 1905 avec la loi de séparation. Et donc, voilà, ça a double sens, en quelque sorte. Et la suite, c'est franc, veut dire libre, il faut le redevenir. Et ça, c'est en lisant votre livre que ce sous-titre, en quelque sorte, m'est venu. Car depuis plusieurs années maintenant, et ces dernières années plus que jamais, nos désirs, nos pensées, nos choix, notre foi elles-mêmes sont contrôlées et condamnées comme délits d'opinion. Il faut quand même le voir. Et je dirais que si par malheur on arrivait à un régime dictatorial véritable, eh bien un prêtre ne pourrait plus faire un sermon parce que, eh bien, on écarte les femmes de la célébration parce que l'homosexualité est un péché, parce que etc. Donc ce délit d'opinion, notion soviétoïde, dans tout pays libre, doit être impérativement délivré. Voilà. Je pense que il y a des pays qui vivent sans cette chape de plomb de délit d'opinion que nous avons véritablement bien adapté. Alors donc, vous avez écrit « Bienvenue au Kosovo » en 2019, vous avez écrit « L'Amérique Empire » en 2013, ça je ne l'ai pas lu parce que c'est le point sur lequel on n'est pas franchement d'accord. Ouais. 2023. C'est moi qui ai mal écrit. Donc, dans ce livre-là, « Déclin et renouveau », édition des Sirtes, qui est sorti en novembre 2025, est-ce que je me trompe ?
En février de cette année, 2026.
En février 2026. Alors, ça, c'était... Ça, c'est... Parfois, hein, sur Internet, ils ne donnent pas
les... Ah, il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet.
Alors, il y a tout un faisceau, donc, ce livre de Tugdual Denis que je n'ai pas lu, mais qui concerne plus spécifiquement quand même une partie de la droite française, très clairement. Il y a un livre comme « La messe n'est pas dite » d'Éric Zemmour, qui veut aussi être un livre qui relance, mais alors de manière beaucoup plus large, qui s'adresse à la fois aux juifs et aux chrétiens, pour se liguer en quelque sorte, pour redonner à la France tout ce qui lui manque désormais aujourd'hui. Donc j'ai lu ce livre attentivement aussi. Au fond, voilà, je lis tout ce qui peut me conforter dans l'idée que nous n'avons pas à pleurer tout le temps sur notre sort, car nous avons... Ce qui n'existait pas, ça je peux en témoigner il y a 30 ans, nous avons véritablement une possibilité de sursaut, de parole. Comment vous avez dit tout à l'heure
J'ai pas retenu le terme, mais peut-être une opportunité.
C'était un très très beau mot, ouais. je me souviens plus. Quelque chose qui ressurgit en fait, qui va vraiment dans la bonne direction, simplement voilà, on se heurte quand même à des dirigeants et autour d'eux à beaucoup de gens qui sont là pour nous arrêter, pour nous empêcher et pour empêcher celui qui, alors quelles que soient les critiques, parce qu'il y en a tous les jours, mais celui qui pourrait éventuellement représenter ce courant-là, qui est Jordan Bardella, qui vont absolument tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, parce que c'est quand même ça, c'est quand même... Alors lui, c'est pas la droite Versailles, Cato-Versailles, mais il concentre derrière lui... dans tous ces millions de gens qui votent, ils votent en réalité voilà, pour cette France différente, en réalité. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, à propos, je voulais vous dire que... Alors, j'ai fait un article sur le canon français, sur ce qui s'est passé pour le canon français dans...
LinkedIn.
Le nouveau conservateur.
Le nouveau conservateur,
j'allais
d'accord.
dire Liberté politique, mais ça, c'était avant. Mais ça existe toujours, Liberté politique, bien sûr. Mais dans Le Nouveau Conservateur, donc ceux que ça intéresse peuvent aller sur LinkedIn où l'article se trouve en entier, ou sur le site, bien sûr, de cette revue. Voilà, Le Nouveau Conservateur. Voilà, tout est dans chacun des deux mots. Donc j'ai fait un article et je voudrais alors préciser pour ceux qui nous écoutent que c'est assez extraordinaire. Moi j'aime pas la foule, donc je sais pas si j'irai, mais c'est quand même formidable. C'est-à-dire que pour 79,99€, vous avez 5 bouteilles de vin pour une table de 8. Vous pouvez renouveler au fromage, enfin bon, c'est très très bien. Et que c'est gratuit pour les moins de 6 ans et que c'est 15€ pour les 6-15 ans. Et donc les prochains banquets, c'est le banquet alsacien mais qui est complet, le 30, le banquet gascon, le 4 à la Thèse de Buc, le canon Berrichon à Bourges, le 30. Et puis ensuite, le mois suivant, vous avez le canon rouennais, le canon tourangeau, lorrain, angevin, etc. Ce qui est formidable en plus, c'est que voilà, ça fait le tour de la France.
C'est beau.
C'est pas un phénomène, on peut pas dire, comme on dit toujours, ah, c'est un phénomène parisien. Non, pas du tout. Voilà, donc espérons qu'ils se sortiront de ces oppositions à leur action qui est tout de même formidable. Après, je vous donne encore une mauvaise nouvelle et après on arrête. Ça c'était la bonne nouvelle, le canon français quand même. Oui, sur les bienfaits de ne pas assimiler les populations étrangères. Vous avez peut-être vu ça, un jeune étudiant, c'est pas chez nous, c'est en Angleterre, a été tué par un sikh qui se baladait avec son arme tribale. Je peux pas vous dire le nom parce que c'est imprononçable. Et ça c'est Shastar, je crois. Doté d'une lame de 21 cm, quand même, et qu'il a le droit de porter sur lui parce que c'est sa culture. Hein. Et donc il a poignardé Henri Novak. Les gens l'ont entendu crier qu'il était agressé, qu'il allait mourir. Mais son agresseur, loin de s'enfuir, est resté là en essayant de lui faire porter la responsabilité en lui disant qu'il avait été raciste, qu'il avait tenu des propos racistes. Et donc c'était affreux parce que au lieu de chercher de l'aide pour l'homme qu'il avait blessé, eh bien il soulevait les populations qui arrivaient contre ce malheureux gamin. Il aura pourtant du mal à plaider l'autodéfense puisque tous les coups sont donnés dans le dos. Donc voilà. Donc, c'était juste pour nous rappeler que même si on est heureux, il y a quand même des actes politiques qui sont très inconséquents et qui mettent en danger. Et ça, c'est sur un plan national, mais sur un plan international, malheureusement, on a aussi ce genre de choses. Voilà, donc malgré ça, nous allons donc aller dans Déclin et Renouveau avec Nicolas Mirkovitch. Et donc, tiens, c'est une question perfide. Mais vas-y. Vous n'avez pas eu envie de franciser votre nom ?
Absolument pas. Absolument pas. C'est mon nom de famille, c'est le patronyme, c'est ce que m'a donné mon père, que je garderai, que je transmets
à mes enfants. Non, mais même Nicolas.
Ah non, bah, c'est le choix de mes parents, donc moi,
cette orthographe,
là. Avec cette orthographe, oui. J'assume complètement, j'en suis fier et je changerai pour rien au monde.
Non, parce que j'avais écrit Nicolas, alors, après je me suis dit, ah ben non, je me suis trompé,
c'est
Nicolas.
Ah non, mais on se trompe dans mon prénom et mon nom, et c'est pas grave. Je suis le cauchemar des administrations.
Bon, alors vous n'êtes pas d'accord avec Zemmour sur ce point.
Pas du tout d'accord avec Zemmour sur ce point.
Passons au contenu du livre. J'ai noté quelques passages, j'ai même pas besoin de l'ouvrir parce que je les ai notés pour la plupart, mais vous dites à la page 23, vous écrivez à la page 23 de Déclin et Renouveau, comment les Français se relèveront. Une société qui fait croire que le concubinage, le divorce, le bougisme professionnel ou les mères seules sont les marques du progrès. L'avortement, j'en ai oublié, du coup, les familles recomposées sont des marques du progrès, eh bien, ne sont pas des sociétés...
épanouies.
J'ai pas la fin de la phrase, mais bon, voilà.
Heureuses, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Dans une société, c'est ça, oui, où les relations humaines se délitent, etc. Et c'est une société qui ne protège plus, en fait, de la laideur, des monstruosités que les hommes sont capables de promettre. Bah, ça me frappe beaucoup, parce que là encore, on dissertait sur une radio de l'angoisse des adolescents, des suicides des adolescents, des violences des adolescents, mais comment cela pourrait-il être autrement ? Qu'est-ce qu'on leur montre ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société relativiste où ceux qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou même le pouvoir médiatique, qui est tout aussi puissant, voire même parfois plus puissant, ont cherché à déconstruire la société. N'oublions pas même Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Eh bien, on a voulu ces personnes-là qui ont une idéologie atlantiste, une idéologie mondialiste où on doit déconstruire tout ce qui est nation, religion, État, tous les liens. Ils se sont attaqués au fondement de la société, ils se sont attaqués à la famille. Donc la famille qui est un des piliers de la société, c'est ce que nous rappelle Aristote, le philosophe français contemporain Fabrice Hadjadj nous le rappelle aussi, l'importance de la famille. Ils se sont attaqués en nous disant, voilà, ben, c'est ce que veut le peuple. Alors le peuple, on ne lui a pas toujours demandé son opinion sur tous ces phénomènes sociétaux, sur tous ces changements, sur toute cette législation qui va de, ben, voilà, ben, on va simplifier le divorce pour tout le monde, on va aller jusqu'à l'euthanasie, on va en ériger cette déconstruction en modèle. C'est-à-dire que la vie en famille n'est pas facile, tous ceux qui sont dans une famille le savent. Pour autant, le projet de société doit être d'encourager les familles à rester ensemble, parce qu'on sait que bah, c'est le lieu du premier amour, c'est ce que dit Hadjadj, c'est le lieu du premier amour, c'est le lieu de l'éducation, c'est pile dans la famille qu'on apprend à vivre avec l'autre, à faire la différence des sexes, des âges, de l'ordre, de la hiérarchie, des responsabilités. Si vous éclatez la famille, comment voulez-vous que des personnes qui n'ont pas eu ce cadre de développement puissent ensuite avoir du respect pour quelqu'un qui n'est pas de sa propre famille ? Ce respect, ce regard, savoir ce que c'est que l'amour, savoir ce que c'est que l'amitié, savoir quelle est l'attitude à adopter, savoir comment composer avec d'autres, la famille et cette espèce d'écrin dans lequel le bon Dieu nous a mis pour nous développer. Si vous sapez cela, eh bien évidemment, ce qui va sortir de cet écrin ne sera pas prêt pour la société. Et voilà ce qu'ont fait ces responsables. C'est-à-dire qu'ils ont détruit, entre autres, la famille en proposant, en disant, il n'y a plus de famille, la famille, c'est ce qu'on en veut. Et imaginons que tous les résultats soient magnifiques, qu'on soit dans une société épanouie, que tout le monde saura qu'il n'y ait plus d'incivilité, que les personnes s'entendent bien, qu'on connaisse ce fameux vivre ensemble dont on a... qu'on ne cesse de répéter à longueur de journée, eh bien, on pourrait se dire, peut-être qu'ils avaient raison. Mais ce n'est pas le cas. C'est tout le contraire. Les indicateurs sociaux ne sont pas bons du tout. Et cette destruction de la famille, ce nouveau modèle social qu'on nous propose, au contraire, encourage la violence, encourage l'incivilité. On a en France 9 millions de pauvres, 9 millions de personnes qui vivent juste au-dessus ou en dessous du seuil de pauvreté.
Parce que c'est aussi une économie, la famille. C'est aussi ce qui permet de tenir financièrement quand l'un des membres a besoin, l'autre, etc.
Exactement, on n'aurait pas autant de personnes dans la rue si ces personnes avaient des familles, enfin en tout cas, qui puissent les aider. C'est ça aussi, la famille, c'est aider, c'est pas facile tous les jours, mais c'est fondamental. Et c'est une protection pour l'individu. Et donc, le projet de société doit être, au contraire, de tout faire pour que les familles restent ensemble. Or, notre projet de société, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Et au bout d'un moment, quand chacun fait ce qu'il veut, vous n'avez plus de société, on rentre dans l'anomie. C'est-à-dire, on rentre dans une société aujourd'hui. C'est-à-dire, leur projet, c'est une société où il n'y a plus de lien entre les personnes, plus de lien entre les citoyens, plus de lien entre les membres de famille. On est de plus en plus éloignés les uns des autres. On ne participe plus à des fêtes populaires, comme on le moins
canon
en moins,
français.
Le canon français, ça c'est un contre-exemple. Et c'est très bien, et c'est un bon signe.
Il y a quand même, quand vous traversez la France, il y a des fêtes de village, ça se maintient, mais c'est difficile.
Il y en a de moins
c'est
en moins,
difficile qu'avant.
Et justement, ça se maintient plus dans les villages. C'est-à-dire que les villages, ils ont gardé, moi il y a des villages en France aujourd'hui où il n'y a pas de DDE si jamais il y a une panne électrique et qu'il faut aller déblayer la route. Ce sont les habitants du village qui ne demandent pas à ce que des indemnités, un paiement, ils le font parce qu'ils habitent ensemble, ils ont compris l'intérêt du bien commun, ils se connaissent et ils font ce travail. Donc il y a une meilleure résistance à ce modèle moderne dans les villages aujourd'hui qu'en ville. Et bien évidemment, je ne veux pas avoir une vision, tirer une image complètement négative. Il y a des concerts, il y a des organisations, il y a des choses qui se font.
C'est quand même frappant.
Je trouve
ça extraordinaire, alors que les gens peuvent se distraire avec leur iPhone. Non, ils font des trucs.
Parce qu'il y a ça, vous avez un appel à ça. Les gens aiment ça, les gens veulent ça. Et aujourd'hui, où la société est de plus en plus perdue parce qu'il n'y a plus de repères, eh bien justement, les Français vont se retrouver de plus en plus. Ça, c'est extrêmement positif. Parce qu'ils ont besoin de ce lien. Nous sommes des animaux politiques, nous dit Aristote. On pourrait tous vivre dans des grottes, mais c'est pas, on le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'il faut qu'on habite en société.
Quelquefois, au bout d'un moment, on a envie. Hein.
Oui, mais parfois, il faut le faire. Surtout en ce moment, il faut le faire. Couper les écrans, couper tous les liens avec le monde moderne et juste vivre en plein milieu de la nature, je le recommande de temps en temps, ça fait beaucoup de bien.
Mais aujourd'hui... Pour revenir à ce point de la famille, je reviens dessus parce que vous défendez bien cette idée. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose qui est que tous ces enfants... qui subissent le divorce des parents, et ils sont de plus en plus fréquents, puisqu'il y a la moitié des mariages qui se terminent comme ça, je crois, il y a chez eux une véritable souffrance. Vous avez dit tout à l'heure, c'est le lieu du premier amour. Oui, c'est aussi le lieu de la première trahison. C'est le lieu du premier abandon. C'est quelque chose qui peut bouleverser toute la vie de quelqu'un. Il subit ça à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, peu importe.
Bien sûr.
Mais... je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être enfin on va se pencher.
Il y a des enquêtes, je cite quelques enquêtes qui montrent l'impact négatif de cette déconstruction sociale sur les enfants, sur les parents, sur la société elle-même.
Et la difficulté pour eux après de fonder une famille qui sera stable.
Bien sûr.
C'est très très difficile.
Bien sûr, c'est pas impossible, mais c'est difficile.
Et dans ce milieu dont je parlais tout à l'heure, moi c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ça, c'est que cette volonté... De vivre ensemble du jour du mariage devant Dieu, etc., était pour 95% de ce groupe la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont tenu, quels que soient les orages, quels que soient les machins, ils ont tenu, la famille a tenu, les enfants sont heureux, les enfants, alors je ne sais jamais à 100%, les enfants à leur tour font des familles stables.
Bien sûr.
C'est quelque chose.
C'est l'histoire de France, la famille est une institution. Alors c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de tous les peuples.
C'est l'histoire du monde.
C'est l'histoire du monde, exactement, parce que c'est dans la loi naturelle, dans l'ordre naturel, partout. Eh bien, on se marie, on fonde une famille et on garde cette famille et on traverse les tempêtes. On connaît aucun marin qui va traverser la mer et qui se dit à un moment, s'il y a jamais l'orage, je saute à l'eau et j'abandonne tout le monde. Aucun capitaine fait ça. Donc il dit, on va jusqu'au bout et on tient tous ensemble. Et c'est cet état d'esprit qu'on doit ramener dans la société française, parce que leur modèle ne fonctionne pas, les résultats sont catastrophiques et nous avons un contre-modèle. Nous, on ne va pas réinventer quelque chose. On ne va pas vous dire, votre modèle,
ça existe.
On a quelque chose qu'on fait depuis juste la nuit des temps, que tous les peuples font et qui a porté ses fruits. Donc, on va revenir juste aux bases, on va revenir au béaba de la vie en société, on va renforcer la famille et on va faire en sorte que dans cette société, on respecte les familles, on aide les familles, on fait tout pour que ces familles restent ensemble parce que c'est dans l'intérêt de l'individu et c'est dans l'intérêt de la société.
Alors, pour ramener ça à mon titre de tout à l'heure, au fond, Marianne, c'est ce qui veut détruire la famille au plan politique, c'est-à-dire la monarchie, c'est-à-dire un système qui était sur toute la terre pratiquement. Hein, il n'y a pas de. Alors on cite évidemment la Grèce avec la création de la démocratie, mais qui était quoi en fait? Qui était une manière de réguler l'expression des citoyens, mais ça peut être très bien dans une monarchie, ça peut exister très bien. Tandis que nous, on a fait avec Marianne cette identité, la République, c'est forcément une démocratie, mais sans famille, sans roi, sans reine, sans uniquement par une élection, du coup par des partis. Et bref, c'est un système qui se défend, mais qui ne marche pas extrêmement bien quand même, comme on peut voir. Et donc c'est important de reprendre en considération. On ne va pas refaire ça. On ne va pas refaire des familles qui se marient et du coup le pays est rattaché à l'autre à cause du mariage, puis etc. Ça, on ne va pas le refaire.
Non.
Mais peut-être prendre quand même conscience qu'il y a en nous ce modèle-là, ce modèle d'une famille. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission sur la monarchie avec quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup, qui est Frédéric de Natale et qui nous a parlé de cette monarchie. C'est pas forcément le mode d'exercice autocratique, la monarchie. Ça peut être au contraire, comme la plupart des monarchies européennes, une famille existe et la réalité du pouvoir se joue en dessous avec précisément une assemblée, avec un premier ministre, etc. Mais l'influence de cette famille, le goût des gens pour cette famille, combien de millions ont regardé l'enterrement de Queen Mam, combien de millions ont regardé, etc. Ça existe, et ça, il faudrait, à la limite, moi je dis, c'est ça, il faudrait qu'il y ait partout des monarchies. Mais pas forcément dans le même programme qu'on l'a connu, mais c'est particulièrement important. Alors donc la famille, c'est un des premiers points, parce que votre livre, c'est, vous analysez, mais moins qu'analyser, vous dites ce qu'il faut faire. Quand vous analysez, c'est plutôt ce qu'il faut défaire ou bien ce qu'il faut faire à la place. Par exemple, vous parlez du patrimoine, mais c'est tout à fait vrai. Pas besoin de sauver le patrimoine, il n'y a personne à qui le transmettre. C'est vrai. Combien de gens aujourd'hui sont tout seuls, hommes et femmes d'ailleurs, tout seuls sans enfants, il y en a beaucoup, beaucoup.
Bien sûr.
Et donc,
11 millions de personnes vivent seules en France.
Bon, bah, du coup, c'est un peu triste pour des tas de choses, mais aussi pour le patrimoine, c'est vrai. Alors, les chiffres de l'insécurité, toujours dans. Là, je suis dans la première partie, qui s'appelle « Ne m'appelez plus jamais France », dont on avait parlé la dernière fois. Et donc, vous ciblez un petit peu tout ce qui est détruit dans cette société.
Il faut les nommer, parce que parfois, il y a des personnes, quand même encore aujourd'hui, qui disent « Mais regardez de quoi vous plaignez, on a la sécurité sociale, on peut aller en vacances presque où on veut. » Enfin, il y a quand même une partie de la société qui, d'un point de vue matériel, s'en sort mieux qu'avant. Alors, si vous comparez, oui, on a l'eau courante, on a l'électricité, mais il y a plein d'autres pays dans le monde où ils ont non seulement l'eau courante, électricité, mais ils défendent une de leurs cultures, mais ils défendent la sécurité, mais ils ont, je pense, une participation plus active aux décisions de leur pays que nous avons, nous. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'on appuie sur un bouton, on a l'électricité, eh bien, on ne devrait pas se plaindre.
D'ailleurs, vous avez vu la publicité. C'est pas Versailles, ici.
Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc, on est tous à Versailles. On est tous à Versailles puisqu'on a l'électricité. Mais non, ce n'est pas vrai. Une société, ce n'est pas le bien matériel.
Mais c'est intéressant qu'ils aient pris ça comme référence.
Oui,
hein.
Mais bien sûr. Bien sûr, rien n'est laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est ce qui fait quand nous vivons en société, c'est pas ce bien matériel. Au contraire, ce fait qu'on soit attaché au matériel qui fait que les liens entre citoyens, entre personnes dans la société se sont déliés. Vous savez, c'est ce que dit Saint-Exupéry, et donc je sais plus, c'est peut-être dans Terre des Hommes, où il explique que l'homme qui s'attache au matériel, à vrai dire, construit sa propre prison. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des liens, au lieu de chercher le lien spirituel vers le bon Dieu, au lieu de créer des liens avec les êtres humains, on est en train de créer des liens matériaux. Et on est en train de se construire, ce que dit Saint-Exupéry, notre propre prison.
Alors, toujours dans cette partie « Ne m'appelez plus jamais France », vous évoquez un problème qui est très grave, je pense, et ce sont deux choses qui sont liées. C'est l'insécurité, la violence des gens et des jeunes de plus en plus jeunes, et la fin de la légitime défense. Je crois que c'est lié, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un gamin auquel on apprend que si le cambrioleur rentre dans la maison et que tu te défends et qu'il meurt de cette défense, c'est toi qui es coupable ? Comment peut-il imaginer que lui, il ne va pas aller voler tranquillement, puisque de toute façon, c'est lui qui a raison. Et on est dans cette société où on s'intéresse beaucoup aux criminels. On est dans la société du journal de Libération de l'après-guerre. C'est ça, hein. Libération, c'était quoi ? Libération des prisonniers. C'était ça. Donc, il faut pas de prison. Il faut pas. Moi, je trouve la prison horrible. Je préférerais les travaux forcés si j'avais à choisir. Mais bon. mais il faut, en tout cas, les soustraire à la société d'une manière ou d'une autre. Et on a vraiment en ce moment. C'est pour ça que ça me fait hurler de rire quand les gens me disent ah mais Macron est de droite. Mais non, il est pas de droite. Quelqu'un qui soutient perpétuellement, quoi qu'il arrive, qui, quand il y a un policier qui tue un jeune qui était sur une Mercedes qui avait été volée sans doute à 150 à l'heure et qui, lui-même, le président de la République, prend le micro pour dire qu'il y a eu un meurtre fait par un policier. Enfin, je ne sais plus quels étaient les mots. C'est très grave. C'est grave pour tout le monde. Enfin, le président de la République, c'est normalement le père de la nation. C'est quand même... Et donc, dire des choses comme ça, ça veut dire que jusqu'en bas de l'échelle, jusqu'au petit garçon qui va se dire « Ah ben voilà, ah ben, tu peux tout faire. De toute façon, c'est le flic qui va morfler, etc. »
C'est le modèle inversé. Il n'y a pas beaucoup de sociétés sur Terre où on n'a pas le droit d'avoir recours à la légitime défense. Vous imaginez aujourd'hui un père de famille qui a un cambrioleur qui rentre chez lui, qui ne sait pas quelles sont les intentions de cet homme qui rentre illégalement chez lui. Il ne sait pas s'il veut aller piquer quelques euros dans le tiroir ou s'il convoite sa femme, sa fille. Il n'a pas le droit de se défendre. Et s'il se défend, c'est lui qui va en prison. C'est le monde à l'envers. Et c'est une des défenses, la défense de la liberté. Je parle beaucoup de la liberté dans ce livre. La liberté de vivre en sûreté, de se protéger, de ne pas... Parce que normalement, le malfrat ne devrait pas rentrer dans la maison. C'est le principe de base. Mais à partir du moment où il rentre sur une propriété privée, eh bien, le responsable de cette propriété ou les responsables ont le devoir de le défendre. C'est le monde à l'envers. On dit aujourd'hui, faites rien, parlez, faites-vous tabasser, faites-vous tuer, regardez un crime abject se commettre sous vos yeux. Ouais. C'est le monde à l'envers. Et le problème, c'est qu'on commence on a fini par accepter ça. C'est-à-dire qu'on nous a conditionnés à accepter, mais quand vous parlez avec la plupart des personnes, personne ne veut faire ça. Et je pense que si demain ça devait arriver à la plupart des personnes, tous vont chercher à se défendre. Et dans une société normale, oui, vous n'avez pas le droit de rentrer dans une propriété privée. Vous n'avez rien à y faire. Donc, juste n'y allez pas et vous n'aurez pas de problème. C'est ça la leçon qu'on doit...
Bien sûr. Les films, les livres et tout ça, tout ça véhicule cette idéologie de la défense du criminel et de la criminalisation
En plus, dans une société qui est de plus en plus violente. C'est-à-dire que les films, les jeux vidéo, tout porte à la violence. Ouais. Et les seuls qui ont droit d'être violents ou d'employer la force, ce sont les criminels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la force pour vous défendre. Non. Mais celui qui est mal intentionné, il peut utiliser cette force, et nous vivons dans une culture qui encourage, pas la force, mais la violence pour des fins illégitimes.
Et là, il y a eu une affaire il n'y a pas très longtemps où les deux voleurs étaient rentrés par le toit. Donc quand même, quand les gens rentrent par le toit, on peut quand même supposer qu'ils n'ont pas, des intentions spécialement. Voilà. Et le type a été condamné, le propriétaire, etc. Moi, ça me révulse.
C'est injuste.
Si vous voulez, on parle beaucoup de l'école, mais il n'y a pas que l'école qui éduque, il y a aussi l'État, il y a aussi la justice. Et les enfants sentent ça, ils captent ça très très bien. Donc, on est dans une contre-éducation, tout simplement. Alors, il ne faut pas se poser de questions sur la violence, franchement.
Non.
Alors, dans votre livre, vous avez une deuxième partie qui s'appelle « Pourquoi la crise ?» Et là, je ne vais pas tellement y aller parce qu'on ne va pas tellement être d'accord.
Un peu de bagarre.
On va voir. Hein. Je vais préférer... Bon, on peut faire une petite bagarre, mais bon... Moi, j'ai une vision positive, beaucoup plus positive, mais qui vient de la différence d'âge entre nous, vraisemblablement. Beaucoup plus positive de l'Amérique, parce que moi, je suis né dans l'après-guerre. Hein. Et pour moi, enfin, Rusty, Tintin le jeudi, quoi, c'était le sommet. Mmh. C'était un sommet moral, c'est pour ça que... parce que ce petit garçon et son chien, ils traquaient les méchants, etc. Puis ils étaient beaux, ils avaient leur petit foulard, machin. Et moi, j'étais très petite, hein, et donc pour moi, c'était formidable. Et ça a continué ensuite assez longtemps. Hein. et quand 68 est arrivé, moi, je me suis dit, bon, c'est tous les gauchistes qui sont contre la guerre au Vietnam, qui sont contre les États-Unis, donc moi, je suis toujours pour les États-Unis, vous voyez.
Donc, mais c'est pas le bon réflexe quand même.
C'est-à-dire que vous, alors peut-être parce que vous êtes de l'Est, par votre père, vous n'avez pas été élevé peut-être dans l'anticommunisme véritable, c'est-à-dire au fond un petit peu de tendresse quand même pour ces pays de l'Est.
Non, c'est pas du tout. Mon père était réfugié politique, hein, donc non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, s'il y a une guerre, je veux comprendre pourquoi, quelles sont les raisons. Et c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques sont pour ou contre que je vais définir mon opinion.
Non, bien sûr.
Donc moi, je vais regarder. Et donc, si tous les gauchistes disent que ça c'est noir et que c'est noir, je veux dire, bah les gauchistes ont raison, c'est noir. Mais s'ils disent que c'est blanc alors que c'est noir, je veux dire non, vous avez tort. Que vous soyez de droite ou de gauche, je vais regarder derrière, je vais voir
oui, mais
quelle est la véritable couleur. Et la guerre au Vietnam,
oui, mais
qu'est-ce que ça a apporté aux Américains, à part 50 000 morts, des millions de Vietnamiens
d'accord,
morts.
D'accord, mais ce que j'essaye de... Je ne dis pas que j'ai raison, hein. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'on était véritablement, nous, élevés dans cette idée de deux mondes, pour le coup.
Oui.
Le monde privé totalement de liberté, de Dieu, de tout ce qu'il ne fallait pas. Et puis l'autre monde, et c'était les Américains les plus... puissants de ce monde-là, et ils étaient quand même relativement sympathiques, bien que, bon, le coca, les jeans et tout, on n'était pas tous... Être pour les Américains, ça ne voulait pas dire être américanisé, parce que vous dites le monde s'est américanisé. Oui. On ne s'est pas américanisé, on continuait à se moquer, ma mère disait, ah bah, elle a une jupe à fleurs et un haut à carreaux, ça c'est très américain, ou bien, il arrive, il se sert dans le frigo, très américain, enfin... On avait quand même une distance. On savait que la France n'était pas comme les Américains, oui. Ça c'est sûr. Donc je vous trouve un peu sévère pour cette appréciation. Maintenant, évidemment, quand on voit ce qui s'est passé depuis, et quand on voit, moi ce qui me navre, c'est que Trump se soit laissé entraîner là, dans cette guerre, ça me navre, parce que lui, on avait l'impression qu'il allait justement renverser la vapeur.
Oui. Il avait une... Les Américains, et ça c'est plutôt positif, ont donné un chèque en blanc à Trump, que ce soit dans les élections, que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit la Chambre des représentants ou au Sénat, ils ont donné un chèque en blanc pour servir les intérêts des Américains, pour aider les Américains à reconstruire leur infrastructure, à gérer le problème massif d'immigration des États-Unis, à remettre l'Amérique au centre des préoccupations, non seulement de la politique américaine, mais de l'économie américaine. Et Donald Trump avait donc ce chèque en blanc pour le faire, il ne l'a pas fait. Alors ce qui est rassurant pour nous, c'est-à-dire qu'on voit que dans ce modèle mondialiste qui vient des États-Unis, il faut quand même le rappeler, ce projet mondialiste, même s'il y a pu avoir quelques intellectuels un peu complètement débridés ici en France, qui le voulait, c'est à partir des États-Unis que ce projet mondialiste...
Mais non, il y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu aussi l'idée qu'au contraire, l'Amérique devait être... Ah, c'est moi ça.
Que ce projet mondialiste se développe, et aujourd'hui, on voit que les Américains n'en veulent pas.
Ils n'en veulent pas.
Or, mais Donald Trump, lui, ne comprend pas ça.
Mais attention, il n'y a qu'une partie de l'opinion qui en voulait, la même que chez nous. Hein.
Elle était majoritaire, cette opinion. Et en plus, elle était largement majoritaire. Donald Trump a le voix populaire, les voix populaires. Et contre toute attente, justement, il a été cherché chez les Mexicains, chez les Noirs, chez les conservateurs traditionnels. Il a été cherché largement. Pourquoi ? Parce que les États-Unis traversent une crise sans précédent. Cette Amérique dont vous parlez, que j'ai connue aussi, parce qu'il n'y a pas une si grande différence d'âge que ça, eh bien, avec des jolis films Walt Disney, avec cette culture, avec Rintintin qui arrive avec une belle valeur, avec la petite maison dans la prairie, avec Laura Ingalls qui se casse la figure dans les champs, on a tous aimé ça, avec une belle histoire, une belle morale. Mais c'est... Regardez, alors je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui.
Les Indiens.
Alors là, du coup, les Indiens, à partir des Indiens, là, j'ai commencé à me poser des questions parce que le côté manichéen, le bon cow-boy et le méchant indien.
Mais non, justement, moi j'aimais les films où c'était pas ça, où il y avait Aigle Noir, le magnifique.
Et ça, c'était pas mal. Mais regardez ce que les enfants regardent aujourd'hui sorti de Walt Disney. Ouais. Je ne sais pas si vous regardez.
Ils sont trop grands, les miens.
Ce n'est plus du tout la même petite morale à la fin. Cette déconstruction de la société. Elle fait plus de mal par ces films qui viennent des États-Unis, par les séries américaines qui conditionnent la société, que par nos hommes politiques et nos studios de réalisation cinématographique. Malheureusement, on n'a pas de contre-production. On n'arrive pas à faire des films en regard de ce que font les États-Unis. Donc, si les États-Unis...
On a quelques bons films, quand même.
Ah oui, on en a des très bons. Mais globalement, l'industrie de cinéma, qui était
Clint
éminemment...
Eastwood.
Oui, mais Clint Eastwood n'est plus très frais. Mais au début du siècle dernier, la France était la première industrie cinématographique mondiale.
C'est vrai.
Et donc, on est encore capable de faire des très bons films, mais il y a une telle industrie, une inondation du marché. Vous savez, c'est comme ça que les États-Unis ont construit leur empire. Ils ont compris qu'ils avaient les ressources, il leur fallait des marchés. Donc, quand vous faites un film que vous le...
Ils n'ont pas été les seuls, et les Italiens, alors, ils n'ont pas envahi les marchés aussi.
Mais bien sûr, mais toute l'Europe, on a été... Alors, vous savez ce que dit Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier, qui est sorti en 1997, il considère l'Europe de l'Ouest globalement comme un protectorat
américain. Oui, mais alors là,
voilà.
C'est de sa faute si vous pensez. C'est ça. Moi, je suis absolument
persuadé que
non.
C'est un Américain qui
le
dit.
Alors, pour vous montrer à quel point les visions peuvent être différentes, moi, j'habitais Saint-Germain-en-Laye, il y avait le Shape. Donc,
l'OTAN, etc.
Oui, mais pour moi, c'était pas l'OTAN. Moi, pour moi, c'était les Américains. Mm-hmm. Et on était super contents qu'ils soient là, parce qu'on se disait, si jamais les bolcheviks nous tapent dessus, eh ben, ils sont là. Et quand ils sont partis, ça a fait un étrange vide. Ça a été vraiment ressenti comme... Et moi, je me suis dit, quand est arrivé 68, l'enfer au lycée, tout ça... J'ai fait les liens, je me suis dit, bah, peut-être que De Gaulle aurait pas dû renvoyer les Américains.
Non, moi, je veux pas d'armée étrangère sur mon territoire,
oui,
quel qu'il soit.
Si on choisit entre deux armées étrangères, bien sûr.
Ah, moi, je veux pas. Moi, je veux une armée française forte et qui se suit. En plus,
Et qu'est-ce que vous dites? Alors, quand De Gaulle a lâché l'Algérie, alors quoi? C'était bien, ça? Non? J'aurais mieux fait de la garder.
Bah, ça, c'est encore un autre sujet, ça. On est passé des États-Unis et des chips à De Gaulle et l'Algérie. Mais je pense que c'est pas parce que De Gaulle fait une très bonne chose en disant aux Américains, dégagez avec vos soldats parce qu'on n'a pas besoin d'une armée étrangère pour défendre le territoire français. De Gaulle, n'oubliez pas, s'est battu contre Washington pour avoir l'énergie nucléaire. Les Américains ont mis des bâtons dans les roues des Français.
Ça, c'est le domaine des affaires. C'est pas tout à fait pareil.
Oui, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est avec des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'amis. Donc, grâce à ça, et au contraire, je pense, on peut se raccrocher à notre thématique de départ parce que c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui est important pour la France? Qu'elle soit souveraine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle dépende ni des États-Unis, ni de Bruxelles, ni de la Chine.
C'est dans les rêves.
Ah ben non, moi je suis pas d'accord. Je pense que justement, vous parliez de la monarchie tout à l'heure. La France, alors je suis pas en train de vous vanter le modèle monarchique, la grandeur de la France, c'est une France souveraine. Et la France ne cesse de chuter avec des hauts et des bas, avec des occupations anglaises, les Maures, les Allemands, les Huns, avec
la rage. Elle a été occupée sous l'ancien régime, enfin, et Jeanne d'Arc, alors.
Oui, mais son est sortie parce qu'elle était souveraine.
Bon. On va laisser les choses où elles en sont. Je vais dire simplement que De Gaulle, ça lui a pas porté chance de renvoyer les Américains. Juste après, il a été en ballotage. Après, il y a eu mai 68. Et après, il a eu le référendum. Pouf, dans la figure.
Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard.
Ben, je sais pas. Je crois qu'il a été trop personnel sous prétexte de la souveraineté.
Je pense qu'il était un bon poil à gratter pour les Américains et il en a payé le prix.
C'est sûr. Donc voilà. Alors la partie d'après, on va pas se battre du tout. c'est comment s'en sortir. Là, on va être complètement d'accord. Que faire? Quels sont nos principes? Et puis un chapitre parce que j'ai pas le truc sous les yeux, mais enfin peu importe, qui s'intitule Deux peuples, une terre. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est des choses qu'il faut pas dire. Enfin, ça n'existe pas, voyons. Et j'ai bien aimé aussi à la page 165. Donc, je répète pour les auditeurs, Nicolas Mirkovic, Déclin et renouveau. Comment les Français se relèveront? J'ai bien aimé à la page 165, réflexion sur soi. L'effort contre le confort. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a fait penser à la Boétie que vous citez par ailleurs. Par exemple, quand la Boétie parle de liberté, c'est pas la licence, c'est pas la liberté de brûler les trucs, c'est pas la liberté. C'est la liberté qu'on doit construire en soi-même afin de se forger un endroit où les autres ne pénétreront pas sans que l'esprit critique s'éveille, sans qu'on soit défendu en quelque sorte. La liberté d'être soi.
C'est ça.
Et je pense que c'est ce que vous dites, en fait.
Il faut partir de soi, parce qu'on est aussi tombé dans le piège de penser que les autres vont nous sauver. Quel parti? Qui est l'homme providentiel? Qui va faire ce boulot à ma place? Or, la liberté, elle commence soi-même. Si nous-mêmes, nous ne saisissons pas les espaces de liberté pour déjà se construire soi-même, et ensuite pour rayonner, pour faire étendre cet espace de liberté, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, quelqu'un ou une organisation ou une association ou un mouvement ou un gouvernement va le prendre, parce que la nature a horreur du vide. Donc le combat pour la liberté commence par soi-même retrouver la liberté et la chercher et la défendre. Et ça, c'est fondamental. Et si on n'a pas compris que chacun d'entre nous est un maillon de cette chaîne qui va arriver jusqu'à la libération totale, eh bien, on n'a pas compris. Les autres ne vont pas faire ce qu'on peut faire nous-mêmes. Donc, du coup, le travail commence par soi.
Absolument. Et à un autre passage, vous dites ce que pensait Simone Veil des partis politiques, donc la philosophe. et ça m'a rappelé ce que disait Aristote. Il ne voulait pas les stasis, il appelait ça les stasis, c'est-à-dire des trucs d'insurrection. Oui. Stasis, c'est là, je ne trouve plus le mot, mais bon, c'est la chaleur, ça doit être ça. et justement, à un moment donné, on a essayé à Athènes. Alors, je n'ai jamais retrouvé exactement à quelle date, même quand je faisais mon cours, je me promettais à chaque fois de chercher, puis en fait, je ne cherchais pas, je ne trouvais pas, où on a imposé à ceux qui composaient la voulie, donc l'Assemblée, de s'asseoir, de ne pas s'asseoir avec ceux qui étaient du même parti, de la même, etc. Alors, j'aurais aimé savoir quel résultat ça a donné, mais je ne crois pas que ça ait continué, parce que c'est tellement contraire à, à la nature du pouvoir, qui est de vouloir être avec les gens qui sont comme vous pour prendre le pouvoir. Bon, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, je pense, dans un régime où il y a autant de partis que chez nous, par exemple, une quarantaine, enfin, encore plus que ça, mais disons, une quarantaine qui a à peu près accès à quelques postes, disons. C'est vrai que je me demande quelquefois si ça n'anéantit pas chez quelqu'un la capacité de réfléchir, parce que il va aller vers ce parti parce que son oncle lui a dit que c'était bien, ou parce que sa petite amie lui a dit, etc. Mais ça, il va tout de suite être confronté au programme de ce parti-là, au culte de la personnalité de ce dirigeant de parti-là. Et bon, c'est peut-être un petit peu un travers, en fait.
Je pense que c'est un travers majeur de la démocratie. Si on compare notre démocratie aujourd'hui par rapport à la démocratie athénienne, on est aux antipodes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait copier ce qui se faisait à la Bolée, au L'Ecclésier, à cette époque-là.
Non, mais ils avaient quand même... Ça a mal fini, quand même, à Athènes. Hein.
Ça a mal fini,
ça
parce que...
Ça a duré deux siècles. Hein.
Oui, ça te... oui, bah, comme notre démocratie à nous. Hein, donc, peut-être que ça va... Peut-être qu'on arrive à un terme. Mais aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux politiques. C'est-à-dire que ce jeu démocratique où on vote, comme vous le disiez très bien, parce que la famille vote de telle manière, parce qu'on aime la couleur, parce qu'on aime la tête de la personne, parce que, eh bien, aujourd'hui, nous éloigne du véritable débat politique. On est en train de se battre sur le sexe des gens, des anges, ou les rouges contre les bleus, alors qu'on ne parle pas des fonds, le fond du problème. Et je pense que notre système démocratique aujourd'hui est fatigué, il est usé, il n'y a pas de véritable débat, il n'y a pas beaucoup de débats politiques, il y a des sujets qui sont tabous, des sujets qui sont interdits. Quand on voit l'ensemble de nos politiciens en train de douspiller, de s'invectiver à l'Assemblée nationale, quelle est l'image? Moi, si j'avais une classe avec des élèves comme ça, je veux dire, je mettrais chacun dans un coin jusqu'à ce qu'ils se taisent tous. Et ça, c'est dans une classe d'enfants, quoi. Donc là, on a des adultes qui sont tous en train de s'insulter, et ce sont les personnes qui nous représentent pour choisir quel est le meilleur chemin pour la France. Ça ne marche pas, c'est pas bon. Et d'ailleurs, les fruits ne sont pas bons. Et regardez aujourd'hui, malgré cette pluralité de partis, eh bien, les Français ne votent pas. Est-ce que vous savez que La République En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, en 2017, prend la majorité des sièges à l'Assemblée nationale avec 16,8% des électeurs inscrits? C'est-à-dire que voici notre démocratie où moins d'un Français sur cinq donne la majorité des voix, la majorité des sièges à un seul parti qui décide ensuite ce qu'on va faire, quelles sont les lois, comment est-ce qu'on va voter. Et on nous parle de démocratie. Et je ne veux même pas parler, j'en ouvre un petit volet, mais je pense que c'est important de le faire. Si on regarde tous ces médias dominants, je ne parle évidemment pas d'ici, où nous sommes dans un espace de liberté.
C'est pas encore dominant.
Non, de la radio courtoisie. Mais ces médias dominants qui aujourd'hui choisissent quels sont les sujets dont on va parler, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et des personnes qui suivent ça aveuglément et qui n'ont pas débat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de débat, pas plus de discussion sur des thèmes majeurs dans tous ces médias? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter, débattre de ces différents sujets? Parce qu'ils ont cloisonné ce qu'on on peut dire. Et ça, c'est antidémocratique. Alors... Et d'ailleurs, je voudrais terminer là-dessus, Rousseau, dans Le Contrat social, dit qu'à partir du moment où... Que d'abord, lui, il ne croit pas en la démocratie. Il dit que la démocratie représentative, c'est à partir du moment où on rentre dans ce jeu-là...
Oui, il avait un petit peu au casque.
Non, mais c'est intéressant. Il faut relire Le Contrat social. Il y a des choses intéressantes dedans. Mais où est-ce qu'on... Quand est-ce que le peuple décide, si on croit dans le modèle démocratique, à partir du moment où il a des représentants? Ça ne marche pas. Et on ne veut pas donner le pouvoir au peuple. On devrait avoir des référendums.
Moi, je donne des réponses à ça dans un livre que, évidemment, personne n'a lu, sauf les gens qui écoutent Radio Courtoisie. Non, j'exagère, j'étais sur TVN. Mais enfin, bon, rien à voir avec l'aura de certains autres livres, et qui s'appelle La France Colin Maillard. Alors, je plaide pour quelque chose qui ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est une espèce de voie de la raison qui découle aussi des études que j'ai faites pendant toutes ces années. C'est-à-dire, il faut absolument se détacher son affect quand on fait un choix politique. Ce qui nous perd en France, c'est ça. C'est pour ça qu'on met sur les revues pendant 6 mois la photo d'Emmanuel Macron. Maintenant, on a Philippe, etc. Il faut se détacher de ça. Il faut vraiment penser les choses en termes quasiment mathématiques, en termes de stratégie. Là, à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui a derrière lui la majorité des Français. Il se trouve que c'est Jordan Bardella. Il se trouve qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais on s'en fiche. Et si c'est Marine Le Pen, elle ne plaisait pas non plus à tout le monde. Et si c'est elle, elle ne plaira pas non plus à tout le monde, mais on s'en fiche. On est dans une guerre, peu importe que le général fume des cigarettes qui vous plaisent pas, ou qu'il ait une petite amie qui est vulgaire, ou que, on s'en fiche, c'est le général. C'est lui qui va avoir derrière lui toute la force. Et donc, il faut faire des choix comme ça en politique, sinon ça n'a aucun sens. Et comme vous dites, les partis ne sont là finalement que pour distraire la galerie. Voilà. Mais on a un Bobino à écouter. J'arrête de faire de la pub pour mon propre écrit.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs, de blaguer, parce que l'atmosphère ici est très agréable. Et donc, pendant ce temps, on a profité pour rentrer dans le studio mon second invité que je ne vous ai même pas présenté parce qu'on est parti tout de suite le livre de Nicolas Mirkovitch. C'est Olivier Tournafond. Voilà, oui. Mon collègue est néanmoins ami.
Voilà. Et mon ami est néanmoins collègue.
Et qui est auteur d'ouvrages sur la promotion immobilière.
Oui, ça,
oui, non, mais c'est important pour Nicolas, par exemple. Ouais. Là, ça peut être très intéressant. Ouais. Qui est aussi, et surtout, je dirais, amateur, et, en dehors de son métier, bien sûr, amateur et collectionneur de voitures anciennes. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Oui. Oh, bah, il y en a d'autres, hein. Je ne suis pas le seul.
Oui, mais enfin, la conjoncture n'est pas très favorable. Vous
non,
bah,
non
enfin,
détrompez-vous. Donc, la conjoncture est défavorable aux vieilles voitures qui ont entre 10 et 20 ans.
Aux gueux.
Mais, mais pas du tout, les voitures de collection ne sont pas visées. Parce qu'elles appartiennent à des oligarques et qui sont. Bon, il n'y a pas de problème pour les voitures de collection. D'ailleurs, on a des dérogations.
C'est dégoûtant.
On a des dérogations.
Bon,
on va nous raconter ça. Non, ça n'a rien à voir. Les voitures de collection ne sont pas visées. On veut empêcher la mobilité du tout venant. Je raconterai, j'expliquerai tout à l'heure.
Et donc, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur quelque chose qui est très important, qui est la manière dont on a petit à petit régulé une liberté extraordinaire, qui est la liberté, pour le coup, individuelle, mais collective aussi, de prendre sa voiture et de partir. Alors, on va terminer, et puis ensuite, on revient sur ce sujet passionnant. Donc, dans la dernière partie, donc, ce livre, Nicolas Mirkovitch, Déclin et renouveau, c'est la dernière partie, le « Que faire ?». Et là, Nicolas s'est pris pour Lénine, carrément.
Exactement.
Alors, quels sont nos principes quels sont nos principes, finalement? Je ne vais pas lire le bouquin.
Non, qu'est-ce qui fait qu'il y a un peuple? C'est ça la question. Et c'est la question fondamentale. Ce n'est pas le niveau de TVA, l'âge de la retraite, le calibre des tomates, tous ces sujets débattus par nos technocrates. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, qu'est-ce qu'on connaît un peuple? Et je pense que ça, c'est la question fondamentale. Autour de quoi vit le peuple? Vous savez, Ronan dit qu'une nation, mais on peut assimiler ça au peuple, mais c'est évidemment quelques différences. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui possèdent un riche legs de souvenirs et qui ont envie de vivre ensemble. Et,
qui a dit ça?
Ronan.
Oui. D'habitude, il dit que des bêtises. Non, je ne comprends
pas. Ronan, c'est la nation.
Mais alors, dans une autre partie, il dit que c'est un oui de tous les jours, de tous les peuples entiers, de tout le monde.
C'est un plébiscite de tous les jours.
De tout le monde. Pour lui, il n'y a pas de nation française.
Si,
on fera un sujet là-dessus.
Ok, non, pour Ronan. Et d'ailleurs, Simone Veil dit exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un Français? La question n'est pas si compliquée que ça. Ce sont des personnes qui ont une culture commune et qui ont envie de vivre ensemble. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour entretenir cette culture et pour vivre ensemble? D'abord, il y a certains piliers.
La
famille, c'est fondamental. C'est le pilier de la société. Donc, on doit tout faire pour défendre, protéger sa propre famille, la faire éclore, la faire épanouir.
Et faire des enfants, surtout.
Faire vivre des enfants. Ça,
parce que là, il n'y en a plus.
Pas d'enfants, pas d'avenir. Bah, ça, c'est certain.
Il n'y a plus de Français. Hein, si vous n'avez pas d'enfants, il n'y a plus de Français.
Vous n'en avez pas fait 12, vous, hein, moi non plus.
Non, mais enfin, on en a fait quand même.
Je ne sais pas combien on a fait, Nicolas.
Quelques-uns, mais pas 12.
Oui. Non, mais...
Mais il y a la famille, mais aussi la culture, et ça, c'est fondamental. La culture, c'est fondamental parce que demain, vous pouvez avoir... Vous avez aujourd'hui des Français de souche, je vais reprendre ce terme, qui ne sont pas mieux que des Français de papier ça, parce que...
Qui ne sont pas même pires.
Parce qu'ils n'ont
regardez,
pas la culture.
Regardez, je ferai remarquer que Zemmour et Sarah Knafo sont d'origine étrangère. Hein, bah, pouvez... l'un, ils sont plus français que beaucoup de
et
Français.
Et vous avez des étrangers qui
beaucoup
sont plus français.
Français
et
beaucoup
tout à fait.
Français.
Parce qu'ils aiment la culture, parce qu'ils apprécient la culture.
Ils ont compris le génie français.
Et ça, vous pouvez le retrouver. Si vous ne le retrouvez pas... Si vous ne le retrouvez pas, votre nation s'écroule. Parce que demain, si vous avez être français, c'est une personne qui est juste née en France.
Bien sûr.
Mais que tout le monde parle. Demain, on pourrait tous parler une autre langue. Je vous rappelle qu'avant, les Français parlaient le gaulois et sont passés au romain. Mais on pourrait passer demain à l'anglais si on continue
à américaniser la Macron société. Donne le mauvais exemple, d'ailleurs.
Et, quand il va à l'étranger, il ne parle pas français.
Il ne parle même pas français.
Il parle en anglais. Et en plus, comme il ne parle pas. Il parle en anglais, mais il ne parle pas un très bon anglais. Donc, quand vous ne maîtrisez pas la langue, vous n'avez pas la précision de la pensée. Donc voilà. Donc, la famille, la culture, la justice aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre dans un peuple et qu'on se revendique d'un peuple, c'est qu'on se sent en sécurité dans ce peuple, on se sent libre de pouvoir s'exprimer, on se sent libre de pouvoir déambuler dans la rue, on se sent libre de ne pas être tracassé nuit et jour par l'administration, par l'État, parce qu'on a oublié de déclarer un jardin potager ou une cabane. Voilà.
Bon, j'interromps votre conversation qui est passionnante.
Non, parce que c'est vrai.
Mais nous n'avons pas beaucoup, en général, en début d'après-midi, nous n'avons pas beaucoup de messages d'auditeurs. Ah. C'est l'heure de la sieste et puis bon,
mais
enfin bref.
Il y a des bouchons.
Mais là, il y en a une et donc je voudrais y répondre si ça ne vous ennuie pas. Madame Rouvier, c'est moi. Hélénophone et hélénophile devraient sortir une fois de l'actualité pour traiter de la Grèce. Nous serions particulièrement intéressés par une émission décrivant comment un très grand Kosovo, l'Asie mineure, a basculé dans l'islam turc. Je n'ai jamais entendu un programme traitant de ce thème. Merci de cette émission et de son invité. Alors, chère madame, ça tombe bien parce que j'ai sous les yeux quelque chose dont je comptais parler dans un édito, et j'ai renoncé à l'édito, il fait trop chaud, ce sera la prochaine fois. Ça s'est passé à l'Eurovision, et ça fait... Cette année, l'Eurovision a été prise à partie par des manifestantes qui étaient couvertes de... Comment ça s'appelle
Peinture
De dessins sur le corps.
De tatouages,
voilà, pour protester contre les Turcs. Mais il ne s'agissait pas des Grecs. Mais l'an dernier, j'ai trouvé, donc, l'année dernière, la chanteuse grecque Claudia Papadopoulou avec sa chanson Asteromata qui avait eu le malheur de déplaire aux Turcs, certains les accusant, je cite, de faire référence au massacre des Grecs de souche vivant le long de la côte de la mer Noire par les Turcs ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Des massacres que la Grèce qualifie de génocide. Ah bah oui, c'était quand même un peu ça, hein, malgré tout. Malgré tout, c'était quand même un peu ça. Et donc voilà, c'est vous avez raison, ce serait très intéressant de faire une émission sur la Grèce. Et là, nous en avons parlé juste à propos de la démocratie, mais je voulais dire que la Grèce, justement, elle a connu ces deux siècles de démocratie qui ont été difficiles, il suffit de lire Platon, hein. Ce peuple qu'il faut flatter, etc. Ben, enfin, ils ont bien posé le problème des charmes et en même temps des difficultés de la démocratie.
C'était quand même une démocratie de type un peu sud-africain parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves, les étrangers évidemment n'étaient pas citoyens, les femmes ne votaient pas, les enfants ne votaient pas. Il y avait, je crois, 7 esclaves pour un citoyen. Alors c'est une démocratie de type oligarchique, hein. En réalité.
Censitaire.
Ah oui, mais plus que censitaire, là.
Même, oui, donc ça marchait plus facilement.
Philippe,
si il n'y avait pas
7 esclaves pour un citoyen à Paris. Hein.
Bon, alors ça fait un autre sujet que nous pourrons aborder. Nous allons arriver au thème suivant. Alors, attendez, ça ne marche plus, ça, c'est la chaleur ou quoi ?
C'était les fameuses ZFE, je crois.
Hein, alors... pas seulement, hein.
Ah bon.
Moi, ce que j'aimerais, mais vous avez pas reçu mon petit message?
Si, oui, mais on peut pas, il y a la liberté de circuler.
Oui,
alors, il y a
bah
une citation
oui.
de comment s'appelle-t-il, là, l'ancien gauchiste, Dany le Rouge, là, Cohn-Bendit, voilà. Alors, il a dit en 2017, quand on a commencé à parler des ZFE, personne n'y croyait, il a dit oui, notre objectif est d'empêcher 97%, non, 93%, voilà. De la mobilité. 93% de la circulation, nous voulons la supprimer. Pourquoi 93%? Pourquoi pas 90 ou 95? C'est bizarre. C'est sans doute un chiffre de la cabale, un truc comme ça. Il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement une explication de type que franc-maçonnerie. Un truc. Alors, si on élimine 93% de la circulation dans ce pays, ce pays devient comme la Corée du Nord, évidemment. Ça devient comme l'URSS. D'ailleurs que seuls les oligarques ont le droit de circuler. Il n'y a plus que 7% des gens qui ont le droit de se déplacer en voiture et avec des voitures inabordables. Donc c'est évident.
En Corée du Nord, ils ont des voitures particulières maintenant.
Maintenant, on serait pire que la Corée du Nord. On serait pire que Cuba, on serait pire que le Venezuela. Mais c'est ça le grand rêve des gens de gauche. Parce que les gens de gauche détestent le peuple, en réalité. Ils prétendent, ils se disent démocrates, mais enfin, la démocratie, c'est moi au pouvoir et le peuple pense que la même chose que moi. C'est ça, la démocratie pour les gens de gauche. Alors, leur objectif est en effet d'empêcher cette circulation générale, qui est très démocratique, d'ailleurs, il faut bien le dire. Y a aussi un autre facteur, c'est que j'ai entendu une petite émission sur Internet, très intéressante, sur YouTube, où on montre que les voitures qui ont été fabriquées entre 1990 et 2010 sont les plus résistantes, les plus durables, les plus solides qui aient jamais été fabriquées dans l'histoire de l'automobile. Parce qu'avant 1990, bon, c'est plus aléatoire, surtout dans les années 60-70, surtout sur certaines marques. Et à partir de 2010, ça redevient très aléatoire, la durée de vie est moins grande parce que les voitures sont bourrées d'électronique, il y a énormément de défaillances liées au dysfonctionnement des systèmes informatiques, tout devient très compliqué, puis les voitures sont soumises à des normes énergétiques extrêmement contraignantes, qui fait qu'on demande des moteurs plus petits mais surpuissants. Tout cela se traduit par des chiffres qui étaient donnés. Une voiture des années 90, 2010, donc pendant cette période de temps, a une durée de vie de 400 000 km à peu près, si on l'entretient correctement. Une voiture de postérieure 2010 n'a plus qu'une durée de vie de 140 000 km. Ça change tout. Or, il y a énormément de ces voitures de 90-2010 en circulation. Et les constructeurs s'arrachent les cheveux. Surtout les constructeurs de voitures modernes, électriques, hybrides, etc., parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Parce que vous avez un parc énorme. Il y a 30 millions de véhicules en circulation, ou 39 millions de véhicules. Vous avez un parc énorme de véhicules extrêmement durables, extrêmement solides, extrêmement faciles à entretenir, genre des vieilles Clio, des vieilles Renault 5, des Peugeot 405, qui peuvent durer, des vieilles BMW. Bon, Laurent Bonfils, qui est venu ici sur ses antennes, qui est assureur, a une BMW, il a 600 000 km. Elle est de 92, boîte manuelle, c'est indestructible. Alors, il y a beaucoup de groupes de pression qui se sont dit « on est mort, on ne pourra jamais vendre nos saletés, il faut coûte que coûte, et c'est une question de vie ou de mort pour nous, économique, sortir de la circulation ces millions de véhicules qui sont recyclables indéfiniment. » Or, la bonne technique, ça va être de culpabiliser les gens en disant « attention, elles sont pas aux normes, elles sont très dangereuses, elles polluent, c'est affreux, elles font des millions de morts dans le monde. » Et c'est à ça qu'on assiste avec les fameuses ZFE. On va sortir de la circulation toutes ces voitures qui nous concurrencent. Parce que le jour où vous ne pourrez plus avoir une vieille Clio de 1999 ou 2005, vous pourrez, il n'y aura plus que les voitures de collection qui sont en nombre très très limité. Ben, ça veut dire que soit vous ne pourrez plus bouger, soit vous devrez acheter des véhicules très coûteux, qui d'ailleurs eux aussi seront remis en question, parce que vous pourrez croire que les vignettes critère 1 de postérieure à 2011 seront épargnées. Non, le grand objectif, c'est d'interdire toute mobilité avec les moteurs à explosion à l'horizon 2030-2035. Donc ça veut dire qu'une bonne partie des artisans, des livreurs, des gens qui n'ont pas des moyens énormes, des gens qui aiment bien avoir une voiture d'usage, seront dans l'interdiction de rouler. Et en plus, vous avez un deuxième groupe de pression. C'est le groupe de pression des installateurs de radars, des sociétés privatisées, dont certaines sont à Rennes, qui tirent des bénéfices énormes, notamment des radars sur la route, et qui, elles, se frottent les mains, ont déjà signé des marchés publics pour l'installation de centaines de milliers de radars de surveillance partout dans toutes les municipalités. Et pour que l'asservissement soit encore plus fort, le gouvernement voudrait beaucoup que toutes les collectivités territoriales puissent interdire à leur guise des voitures dites polluantes, qui en réalité ne font de mal à personne, parce que ça changera strictement rien au réchauffement climatique, ça François Gervais l'a bien montré, Christian Gérondeau aussi. Quant aux microparticules, il faut savoir qu'elles n'ont fait que baisser depuis 2017. En 2017, le taux était relativement important et du fait du renouvellement automatique du parc automobile, le taux de microparticules dans l'atmosphère a considérablement baissé. Alors, on déclare une alerte aux microparticules dans l'air quand on atteint 80 microgrammes par mètre cube d'air. Il faut savoir que dans le métro parisien, il y a tous les jours 300 microgrammes de microparticules, notamment d'amiante, par mètre cube d'air. Et pourtant, il y a des millions de gens qui sont dans le métro. Et ça, ça dérange personne. Alors, évidemment, ça, c'est un prétexte parce que les microparticules diminuent. D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'Assemblée nationale et le Sénat, dans leur grande sagesse, avaient supprimé les ZFE, que le Conseil constitutionnel a rétabli par un coup de force. Donc, la question est toujours débattue. Quant au réchauffement climatique, ça n'a aucun intérêt parce que, de toute manière, qu'une voiture qui émet du CO2, l'émet à Paris ou en race campagne, ça change rien pour le climat. C'est toujours le même CO2 qui part dans l'atmosphère. Le CO2, il reste pas dans Paris intramuros. C'est grotesque. Tout ça, c'est absolument grotesque. Donc, on a une vaste tentative, là, de rétablir ces ZFE. Alors, beaucoup de gens, certains demandent un référendum pour briser définitivement cette jurisprudence du Conseil constitutionnel. D'autres demandent une loi ad hoc, parce que alors la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue pour rétablir les ZFE, on l'a examinée, elle est heureusement, ils sont pas très bons, hein. Heureusement, c'est pas des bons juristes. Ce qu'on redoutait, c'est qu'ils disent, d'une part, c'est un cavalier législatif, cette loi qui a supprimé les ZFE, et d'autre part, elle contrevient gravement aux objectifs de neutralité carbone que la France a souscrit auprès de l'Union européenne, et ça c'est absolument intolérable, notamment la charte de l'environnement, le droit de chacun à vivre dans un environnement sain, dont le Conseil constitutionnel a fait un de ses dadas ces dernières années. Mais bizarrement, ils n'y ont pas pensé.
Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça.
Il est lié.
Il doit s'occuper uniquement de la conformité de la loi à la Constitution. On ne l'a pas mis dans la Constitution, je ne sais pas.
Oui, mais eux, ils ont dit que c'était une valeur constitutionnelle.
Une valeur, mais...
Hein, oui. Et qui a élu le Conseil constitutionnel?
Personne.
On revient sur le sujet juste donc, on n'est pas en démocratie, c'est le peuple les représentants du peuple qui prennent une décision et des personnes non élues qui reviennent sur des décisions du peuple.
Oui,
les représentants du peuple, ne les aimaient pas. Mais alors, du coup, ceux qui ne sont même pas élus, je peux vous dire,
ce sont des oligarques.
Mais non, mais.
La question, ce n'est pas tellement de savoir s'ils sont élus ou pas élus. La question est de savoir si cette mesure de ZFE est utile ou non. En fait, elle est strictement inutile parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit une disproportion manifeste entre les avantages attendus et les sacrifices consentis. C'est comme la théorie des effets secondaires pour les vaccins ou en médecine. Si vous avez un traitement qui n'a pratiquement aucune vertu thérapeutique, exemple le remdesivir dont on parlait hier avec le professeur Perron, et qui a des effets secondaires absolument épouvantables parce qu'il va vous tuer, le remède va être pire que le mal, ben on doit éliminer ce médicament tout de suite. C'est exactement la même chose en politique. Si vous avez des mesures qui n'ont strictement aucune efficacité environnementale, et là, ça a été démontré, ça n'a aucune efficacité environnementale, puisque le CO2, ça change rien, et les microparticules, de toute façon, elles disparaissent progressivement du fait de l'amélioration des moteurs. Alors, en revanche, les effets secondaires sont énormes. C'est-à-dire, c'est la ruine des artisans, c'est brider la liberté individuelle, interdire aux gens de circuler, précipiter dans la précarité des millions de gens, parce que ça ne sera pas cantonné qu'à Paris. Ça sera dans toutes les agglomérations, peut-être même dans toutes les villes.
Attention, pour le moment, il s'agissait de Paris, Lyon, Marseille.
Non, mais
pour être clair pour les éditeurs...
Elles ont été rétablies partout, et pas simplement à Paris, Lyon, Marseille.
Non, mais pour être précis, ça s'applique où? Parce que...
Pour le moment, toutes les collectivités territoriales de plus de 150 000 habitants. Il n'y a pas que Paris, Lyon et Marseille là-dedans. À commencer
toutes les
villes. Toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Notamment Bayonne, Anglet de Biarritz, qui veut les mettre. Grenoble, Lille, il y en a plein.
Pour les auditeurs, il y en a qui ne savent
auditeurs,
pas. Hein.
Mais c'est ça.
Non, il y en a qui ne savent
plus
pas.
Plus de 150 000 habitants. Et même Melun veut les mettre en place. Vous risquez d'être dans un état où vous ne pourrez même plus vous déplacer si vous n'avez pas une voiture dernier cri ou une voiture de collection qui a plus de 30 ans d'âge, une carte grise de collection. Alors nous, on a beaucoup de voitures de collection, elles ont une dérogation, elles bénéficient d'une dérogation. Bon, parce que la dérogation a été obtenue par un organisme qui s'appelle la FFVE, qui est très efficace pour la défense du lobby que constituent les collectionneurs. Et les voitures de collection, qui d'ailleurs ne représentent absolument rien sur le plan statistique, c'est l'épaisseur du trait, comme on dit. Ça n'a aucun impact, ont obtenu une dérogation. et elles ont le droit de circuler dans les aides-feux en toutes circonstances, comme c'est d'ailleurs le cas partout dans l'Europe, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Grande-Bretagne. Il y a toujours un statut dérogatoire pour les voitures historiques. Mais ce qui est très embêtant, c'est pas les voitures historiques, c'est les voitures de parc automobile, oui, très important, qui est extraordinairement utile, parce que vous pouvez demain avoir une très bonne voiture pour 2 000-3 000 euros. C'est pas la peine de dépenser 30, 40, 50 000. Et ça, ça fait enrager littéralement des groupes de pression. Sans compter qu'il y a aussi tous les fabricants de radars qui se frottent les mains. C'est une manne financière pour eux. Et d'ailleurs, certains l'ont dit, mais comment est-ce qu'on a déjà passé les marchés? On a déjà les masses appareils, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel gaspillage! Ah, mais c'est affreux!
Alors, à propos des aides-feux, c'est justement le problème, c'est que on aurait déjà, on se serait engagé à payer le coût énorme auprès de l'Union européenne de la confection de ça. Et que donc, si on ne le fait pas, on aurait une amende énorme à payer.
Enfin, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce sont des oligarques, comme dit très bien votre invité.
Oui, mais
ce sont des oligarques.
C'est nous qui paierons l'amende. Hein, c'est...
Je sais bien, ça s'appelle l'oligarchie au pouvoir, comme c'était le titre d'un livre d'Yvan Blot.
Non, mais ils auraient pu aussi. Non, mais le problème, c'est le mensonge. Soit il fallait qu'ils s'opposent à Bruxelles.
Enfin bon, écoutez, mais vous avez vu ces gens-là s'opposer à quoi que ce soit.
D'accord, mais à ce moment-là, il ne fallait pas dire qu'ils ne s'y étaient pas opposés et que donc on devrait y passer quoi qu'il arrive. Mais parce que l'histoire du cavalier législatif, c'est téléphoné. Hein.
Bien sûr, c'est un système malheureusement de type mafieux.
Alors pour les auditeurs, parce que vous partez dans
Je pars dans l'idée que les gens vont se mobiliser. On ne fait rien, alors c'est fichu.
Les gens-là qui nous écoutent, il y en a qui ne savent pas du tout, donc ils n'ont pas pu.
Ça a été sorti en 2011.
Moi, je fais un petit point. Parce que moi je suis prof, on est prof, les gens on fait un petit point. Par exemple, moi ça m'a intéressé de savoir qu'il n'y a pas toujours eu de permis obligatoire. Depuis quand il y a un permis obligatoire?
Les années 20, je crois.
Exact,
oui,
bravo.
En Belgique, longtemps il n'y avait pas. Il n'y avait pas de permis de conduire, il n'y avait pas plus d'accidents d'ailleurs.
En 1922 en France,
Il était facile.
Ensuite, qui a institué l'horrible permis à points et quand?
C'est 92, ça. C'est quand il y a eu la grève des camionneurs. C'est en 92.
Un peu avant, 89.
Non, parce que c'est entré en application qu'en 92.
Georges Sarre, donc, en 89.
Oui, mais c'était pas entré en application, puisqu'il y a eu des grèves très importantes.
Ah, bah, je suppose que ça, oui.
En 1992.
En tout cas, ça a été décidé par Georges Sarre au début du second Mitterrand.
Et ça n'existe pas dans d'autres pays.
Septennat de François Mitterrand. Et qui a inventé les radars et quand?
Ah, bah, ça, les radars, c'est très ancien, ça. Ça, c'est dans 73, par là.
Non, c'est une technologie tout à fait nouvelle,
On en avait déjà dans les années 66. Mais ils étaient peu performants.
Ah non, qui a décrété le...
Ah bah c'est peut-être Christian Gérondeau, parce que lui, il est devenu bien, mais il n'était pas très
pour
bien
le coup,
à l'origine.
Pour le coup, ça illustre l'influence américaine.
vous parlez des radars fixes.
Radars fixes.
Mais les radars mobiles existaient bien avant.
Ah bah je sais pas, moi j'ai jamais eu de contravention avec un radar.
Ils avaient déjà des radars mobiles.
Non, je parle des radars fixes.
Ah mais les radars fixes, c'est 2003.
C'est épouvantable, c'est 2003.
On le voit d'ailleurs rire d'un rire sardonique devant un radar... en 2003, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, je crois, il était ministre de quoi?
De l'Intérieur.
Et d'ailleurs, des journalistes malicieux l'avaient suivi quand il allait inaugurer le premier radar, et sa voiture roulait à 160 à tombeau ouvert sur l'autoroute.
Bah oui. Faites ce que je dis.
Horrible. Des mafieux.
Et alors
remarquez Sarkozy, on a vu comment il a fini.
C'est pas encore terminé, j'ai l'impression.
Non.
Mais, et alors, moi, évidemment, je roule vite, j'ai comme les gens qui aiment bien rouler, je roule vite. Et donc, les premières années après ça, j'ai fait 3 stages de...
De rééducation dans des camps du Viet Minh.
Mais je n'ai jamais autant rigolé qu'en faisant ça, parce qu'il n'y avait que des gens comme moi, comme nous, voilà. Et donc, ils étaient marrants, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes d'ailleurs. Et je me souviens, j'en ai fait un à Marseille, alors ça c'était vraiment formidable. Et la fille était là à nous expliquer, mais vous comprenez, c'est l'Europe. Alors moi je me suis levé, je dis, c'est pas du tout l'Europe, c'est Nicolas Sarkozy, je suis désolé. Alors déjà, puis il y en a un qui se lève, il s'est dit, tiens, on va passer à l'attaque. Il se lève et il me dit, mais madame, vous nous parlez du risque. Vous savez ce que je fais comme métier, moi? Je lave les carreaux des tours. Alors, vous savez, le risque, je sais ce que c'est.
Mais écoutez, je vais vous donner deux chiffres. Vous avez 3 000 morts par an sur la route maintenant, ce qui est assez faible. Vous avez 10 000 morts par an d'accidents de la vie quotidienne dans les cuisines. La cuisine est 3 fois plus dangereuse que la voiture.
Oh bah très
c'est
bien.
Une pensée dans
la cuisine. Bah,
donc on devrait interdire la cuisine. Il faut interdire la cuisine. Il faut mettre des caméras de surveillance dans les cuisines. C'est intolérable de ne pas... Parce que la cuisine est extrêmement dangereuse.
Alors, pour revenir aussi sur les voitures, puisque moi, j'ai, comme tout le monde, j'étais obligé d'en acheter une, ce qui m'a ruiné totalement. Mais...
Une Fiat 500.
Non, j'étais obligé de lâcher ma petite...
C'est bien les Fiat 500.
Oui, d'accord, mais j'étais obligé de la lâcher parce que je voulais une hybride. Et que, enfin, bon, c'est compliqué. Voilà. Bah oui, non, mais...
Et du coup, vous avez des pannes maintenant.
Non, mais je vais en raconter une qui va quand même vous faire rire, je pense. Dans les vieilles voitures dont vous parliez, on utilisait du caoutchouc.
Hein oui, oui, enfin ça dépend de quelle époque. Oui, naturel d'abord et puis ensuite synthétique.
Bon, enfin bref, ça marchait bien, il n'y avait jamais de problème avec le caoutchouc, c'était du caoutchouc, etc. Là,
la gaine de maïs, oui, c'est
alors,
ça.
Alors là, attends, je porte la voiture au garage, je dis, je ne comprends pas, je ne peux plus faire d'eau, je ne peux plus laver
le lave-glace ne marche plus.
Alors il regarde, il me dit, venez voir.
C'était les rongeurs.
Oui. Ouais. C'était des souris qui avaient mangé le caoutchouc et ils m'ont expliqué c'est fait avec des
du maïs.
C'est fait avec des trucs. Enfin, c'est dingue.
Et des
quoi,
souris qui vous ont ensuite apporté l'antivirus parce que c'était le campagnol roussâtre.
Oh, mais j'ai un chat qui les mange maintenant. Il les mange.
Oui, mais alors il paraît que les chats et les chiens peuvent manger des souris contaminées sans danger. Ce que dit Perron hier.
C'est pas encore arrivé.
Ils ne sont pas vecteurs. Alors mon chat mangeant une souris tous les soirs en moyenne toutes les nuits.
Ah oui, vous aussi.
Oui, et ben alors il s'attaque beaucoup au campagnol roussâtre qui est porteur du fameux antivirus.
Oh là là, mais c'est épouvantable ce que vous me racontez là. Et donc voilà, alors donc on est toujours dans cette problématique de se protéger. Donc certains gardent leur vieille voiture, nous on en a gardé parce
on les a toujours.
Que,
oui, hein.
On sait jamais.
Alors il faut dire une chose aux gens.
Ah oui, quand même. Non, il y a une chose quand même. C'est le prix. C'est quand même beaucoup moins cher.
Ah bah c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est le prix de voiture une voiture
non,
de...
non, le prix de pour faire rouler, le prix de.
Oh bah ça dépend.
Du carburant.
Bah, quand je la recharge chez moi, ça me fait 2,50€.
Oui, parce que c'est. Oui, mais en même temps l'autonomie est excessivement faible.
Pour le moment, oui.
Si vous voulez aller à Bayonne ou à Saint-Tropez.
Oui, ou sinon, il faut être très riche et acheter une Mercedes.
Non, même les voitures les plus performantes que sont, les Tesla, l'autonomie ne dépasse pas 400 km. Hein. Il faut faire étape. Ou alors, il faut s'arrêter longuement. Et ça prend des heures, la recharge, c'est très long. Et puis, de toute façon, il y a un autre inconvénient dans la voiture électrique. Elle n'a aucune revente en occasion parce que les batteries ont une durée de vie limitée. Au bout de 6-7 ans, les batteries perdent en capacité et après, elles sont fichues. Or, le changement des batteries est très compliqué parce que souvent, elles sont serties sous le châssis, elles pèsent excessivement lourd.
Alors, ouais.
Elles pèsent le tiers du poids d'une Tesla, donc 800 kilos hein, pèse une batterie de Tesla, c'est énorme, sachant que la Tesla pèse 2,4 tonnes. Donc, vous baladez vos batteries, c'est comme une locomotive à vapeur est plus écologique de ce point de vue-là, parce qu'elle au moins, elle consomme le carburant, alors que la batterie, elle pèse horriblement lourd, et puis surtout qu'au bout de 7 ans, il faut changer la batterie, ça vous coûte le prix pratiquement d'une voiture neuve. Ce qui veut dire qu'une voiture électrique d'occasion n'a pas de cote. Elle n'est pas revendable. Il n'y a pas de marché de l'occasion pour l'électrique ou très peu. Vous pouvez trouver des voitures électriques, mais si elles sont hors d'usage, elles n'ont pas de... Et vous allez dépenser autant qu'une voiture neuve pour la remettre en route. Donc ça... Et puis en plus, il y a plein de gadgets électroniques qui vont être obsolètes très vite et tout. Non, mais c'est... écologiquement, ce n'est pas du tout d'ailleurs intéressant.
Oui, mais les gens maintenant ne gardent plus les voitures. Ils les prennent en leasing 4 ans, ils les vendent.
Écoutez, ça dépend. Vous avez des voitures qui sont très anciennes, qui roulent toujours. J'en vois beaucoup.
Mais non, mais je parle des voitures électriques de
les voitures électriques, oui.
Ou hybrides.
Mais elles sont hybrides. Mais une voiture électrique a une durée de vie qui est moins de 10 ans, à mon avis.
Oui, c'est ça, c'est pour ça. Ils proposent des contrats. Mais
c'est pas du tout écologique.
Financièrement, évidemment, ils s'y retrouvent parce qu'ils proposent des contrats de 4 ans. Et puis,
alors,
voilà,
il faut savoir que si chers auditeurs, si vous avez des voitures anciennes qui sont antérieures à 2016, eh bien, vous avez le droit, si elles sont en assez bon état, à mettre en carte grise de collection. Et à ce moment-là, vous bénéficiez de la dérogation. Si elle est en carte grise de collection, on ne peut pas vous empêcher d'entrer dans les ZFE. Alors, par contre, toutes les voitures qui ont moins de 30 ans, elles sont frappées par ce problème. Et c'est un problème excessivement grave, parce que ça va obliger à mettre à la casse des dizaines de millions de véhicules. C'est délirant, quand même.
C'est l'idéologie.
Quelque chose c'est de l'écologie punitive.
L'idéologie, oui, c'est ça.
L'idéologie, et voilà.
Mais il y a tellement d'argent en jeu, c'est ça. Hein.
Ouais, bien sûr.
C'est comme les vaccins.
Mais bon, sinon, mais... il y a quelque chose dans votre livre que j'ai bien aimé, c'est vous dites qu'il y a une inflation législative.
Ah bah c'est une évidence.
Et c'est vrai que grâce à ça, en fait, on arrive
à faire n'importe quoi.
À faire n'importe quoi, parce que les gens sont même plus au courant de ce qui est permis et de ce qui est
mais
non permis.
Mais c'est devenu un maquis inextricable.
Tacite disait corruptissima republicae plurime leges.
Et absolument, voilà. Oui.
Plus on a de lois, plus la République est corrompue.
Bah, rappelons-nous.
400 000 directives en France, 11 000 lois. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez dingue.
Rappelons-nous qu'à Rome, la loi tenait sur une pierre qui était au cœur.
Il y avait la loi des 12 tables.
Ouais, ouais. Et quand mon Dieu s'adresse aux Juifs, il y a 10 règles. Donc, du coup, il y a 10 lois. Donc,
aujourd'hui, c'est l'arbitraire législatif total et réglementaire. L'arbitraire, partout, pour les ZFE, pour les DPE, pour tout.
Alors oui.
Tout est interdit, tout peut être interdit d'une manière ou d'une
autre. Moi, j'ai une lueur d'espoir, j'ai vu que peut-être le permis à points allait être arrêté. Alors, ça, ce serait, c'est dans les
tuyaux. Attention, déjà, s'il est pour les dépassements de vitesse de moins de 4
km/h, heureusement,
il n'y a plus de retrait de points.
Heureusement, quand même, c'était vraiment abusif. Mais moi, pour un dépassement de 8, paf, ils m'ont chopé. Bon, bref.
C'est toujours comme ça.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis. Pour les DPE, pas les ZFE, donc pour les auditeurs, c'est ce qui concerne les maisons.
Les diagnostics de performance
on est en train de se rendre compte qu'avec ces diagnostics de performance énergétique, on est en train de ruiner
le marché locatif, totalement.
Mais tout le marché immobilier aussi, je sais pas si on a des chiffres, mais les trois quarts, en tout cas, de l'immobilier sont anciens en France.
Ils sont en F et G.
C'est
comme votre maison.
Absolument, oui. Non, mais
c'est-à-dire qu'en fait, à terme, c'est l'interdiction absolue de louer ses biens ou de les remettre à niveau, mais c'est excessivement coûteux.
Ah oui, c'est
et je vous rappelle que vous aviez des socialistes qui avaient proposé qu'on aille plus loin et qu'on instaure un permis d'habiter empêcher les gens de continuer à habiter dans des logements qu'on se différait comme insalubres ou passoires thermiques. Permis d'habiter, quand même. Donc là, on n'est pas très loin de la RDA, de la Corée du Nord.
C'est bien au-delà.
Ah bah, c'est effrayant. Et il y a des gens qui l'ont voulu, ça c'était en 2023. Il y avait une proposition de loi en ce sens.
Vous en parlez d'ailleurs, l'atteinte à la propriété, ça fait partie des choses qui ont détruit la
société. Et puis aussi la volonté d'interdire aux gens d'être propriétaires du sol aussi. De leur obliger à donner passer un contrat comme à Londres, vous savez, la ville de Londres, et il y a une bonne partie du sol qui appartient encore aux grandes familles, à la couronne, au duc de Westminster. Et on doit payer une redevance. Alors, c'est des baux de très longue durée, des tirés du droit féodal. Eh bien, le rêve d'organismes comme Terra Nova, c'est d'imposer, de séparer la propriété du bâti de la propriété du sol, qui reviendrait automatiquement à l'État, et l'État prendrait une redevance sur chaque propriétaire.
Vous ne posséderez rien, donc vous serez heureux.
Voilà, c'est ce que vous avez dit à Davos. C'est ce que me dit Madame von der Leyen. Elle est
c'est ça, sauf plein de fric en bourse.
Ah oui, ils sont encore...
Dans une société dite démocratique au sens moderne, ce n'est pas le peuple qui décide, c'est une nomenclatura qui représente le peuple et qui incarne le peuple.
Oui, qui est au-dessus
du peuple. Elle est le peuple et elle est le bien incarné. Et toute personne qui dit le contraire verra ses comptes bloqués, comme le malheureux colonel Beau, ou verra à ce moment-là ses avoirs confisqués, parce qu'il sera assimilé à un terroriste. Mais aujourd'hui,
ça, c'est ça.
Mais c'est ce que dit Bernanos dans la France contre les robots. Là, c'était quand même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Où il dit, voilà, tout est tellement ton compliqué. Vous pensez 5 secondes qu'on va vous demander, on va nous demander notre opinion. On a ces techniciens, ces spécialistes qui sont au-dessus de nous, qui, eux, savent ce dont on a besoin. Et nous, ils font tout pour nous garder dans la...
Et en quelle année est-ce qu'il a écrit ça?
C'est sorti de la 45.
C'était prémonitoire.
Et même si on lit Tocqueville, il faut relire ce passage de Tocqueville, 1831 ou quelque chose comme ça. Où il dit, il voit qu'il y a un travers dans la démocratie qui peut être une espèce de nouvelle forme de despotisme.
Il voit
des personnes qui n'ont plus de patrie, plus de famille, que quelques personnes de leur entourage qui tournent autour d'eux à la recherche de quelques vulgaires plaisirs dont ils s'emplissent l'âme. Donc ça, c'est l'éternel de Tocqueville. Et il dit, de temps en temps, on les sortira de leurs conditions pour qu'ils élisent un nouveau maître et on le replongera dans le système. Ça, c'est Tocqueville, au tout début du 19e siècle. On est en plein dedans.
1848.
Et c'est un Normand. C'est normal.
Quand il est revenu des États-Unis, justement.
Mais je pense que
en
fait, Aristote a raison. Tous les systèmes, qu'ils soient aristocratiques, démocratiques ou monarchiques, sont susceptibles de dériver et d'aboutir à des formes abominables. la monarchie peut dégénérer en tyrannie, dit Aristote, l'aristocratie peut dégénérer en ploutocratie, ce qui est le cas en ce moment, et la démocratie peut dégénérer en démagogie ou en anarchie.
En oclocratie,
donc Polybe. Voilà, ouais. Donc il est évident, et c'est pour ça que Aristote, dans sa grande sagesse, préconise le régime mixte. Il faut que le peuple ait des prérogatives, il faut qu'il y ait une élite qui ait également des pouvoirs, il faut également qu'il y ait un chef, parce qu'on ne peut pas se passer de chef. Société humaine n'ont jamais fonctionné en autogestion, ça n'existe pas. Il y a d'ailleurs partout où on voit des chefs, hein, Trump, Xi Jinping, Macron, Angela Merkel, c'était des chefs. C'est pas les peuples qui se gouvernent. Donc la démocratie, c'est vide de sens. Et il faut les trois. Alors, il faut les trois.
Chers amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission.
Il reste 3 minutes.
Il y a quelqu'un qui envoie une blague. Je possède la 2CV sur laquelle Mathusalem a passé son permis. Je pensais lui demander un statut.
La 2CV, oui.
C'est marqué 2CV. Oh.
Bah, c'est 2 chevaux. C'est l'abréviation de 2 chevaux.
Je pensais lui demander un statut de collection afin de pouvoir rouler librement,
sans problème.
Des feux ou pas, mais il m'a été dit que je devais posséder un autre véhicule plus au nord.
Non, alors il a confondu. En fait, c'est 2 choses différentes. Vous avez, cher auditeur, mélangé pour pouvoir avoir la carte grise de collection, il n'y a pas d'autre condition que l'ancienneté de la voiture et son état de conservation conforme à l'origine. Donc là, pas de problème, il faut vous adresser à la Fédération Française de Véhicules d'Époque, la FFVE, dont vous trouverez les coordonnées sur Internet. Et là, il y a un dossier à remplir, vous faites des photos, vous envoyez votre carte grise, on vous donne la carte grise de collection si le véhicule a plus de 30 ans, ce qui doit être le cas de cette voiture. Maintenant, pour avoir une assurance de collection, alors, les assureurs de collection donnent volontiers des assurances de collection à des prix très avantageux, mais on vous demande d'avoir une autre voiture moderne à côté pour assurer les déplacements quotidiens. Donc, l'assurance de collection n'est possible si on a déjà une voiture en assurance normale. Mais ça n'empêche pas de demander une carte grise de collection. C'est deux choses différentes.
Et voilà la réponse de notre expert.
Voilà.
Alors, je voudrais terminer cette émission sur quelque chose qui me paraît fondamental et que j'ai retrouvé dans votre livre, cher Nicolas Mirkovitch, Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Ça concerne le droit, donc ça nous concerne, nous deux aussi. Le droit est l'art de connaître ce qui est bon et juste, selon Sels, au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais le droit français a été accaparé par une justice de caste qui juge le peuple sur des critères politiques et idéologiques.
Et bien sûr, oui.
Mais c'est surtout la suite, c'est-à-dire tout droit mobile est à la merci des plus forts, quelle que soit la forme du gouvernement, que le peuple ait à sa tête un chef unique ou la majorité d'un corps qui délibère. Et je voudrais dire, et je pense que je ne vais pas être contredite sur ce point, que c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'est le positivisme juridique. Oh. C'est-à-dire que le droit n'est estimé que le jour où il est pris, on ne prend en considération pour sa légitimité que l'organe qu'il a pris, pour savoir si cet organe est légitime ou n'est pas.
C'est une imposture, ça.
Et donc, le passé n'existe pas, les intentions du législateur, on les a gommées, la jurisprudence, ça n'existe pas.
Et la ratio legis, donc la raison d'être, c'est-à-dire l'utilité de la loi, n'est plus prise en compte. C'est-à-dire qu'un jour...
Le contenu,
oui, mais ça c'est très grave, parce qu'il faut... C'est là qu'on arrive dans la fameuse disproportion manifeste, où un jour, quelqu'un sera plus sévèrement sanctionné pour avoir roulé avec une voiture dans une ZFE, qu'un malfaiteur qui aura arraché le sac d'une vieille dame.
Tout à fait.
Parce que là, d'ailleurs, c'est ça, je pense...
Oui, mais nous avons fini maintenant. Là,
oui, il reste 23 secondes. J'ai le chronomètre
sur
les yeux.
Hein.
J'ai le chronomètre sur les yeux. Écoutez, Catherine, c'est important d'avoir fait cette piqûre de rappel. Hein.
Voilà.
Hier, on a parlé des vaccins avec le professeur Perron. Là, on parle des éléphants. Comme disait Arlette Laguiller, la lutte continue.
Voilà. La lutte continue pour rétablir un vrai droit. En tout cas,
un vrai état de droit.
Je vous remercie tous les deux. Nicolas Mirkovitch, et bien sûr, je vous incite à lire son livre Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront, pour que vous puissiez, chers auditeurs, se relever, vous relever tous ensemble.
Relevons-nous, très bien.
Vous venez d'entendre La tête hors de l'eau dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 27 mai 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.